version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à l'antenne d'Aligre FM sur le 93.1. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Version originale. Parmi les sujets et les thèmes que j'aborde dans cette émission, les questions portant sur l'esclavage occupent une place importante. Les questions que je soulève ce soir sont que... il y a deux questions à partir du livre que je vais vous présenter, que je soulève ce soir, c'est que demeure-t-il de l'esclavage dans nos contemporanéités? Comment intégrer l'histoire de l'esclavage dans une dynamique de vie? Vaste et profonde question que je vous propose donc d'inscrire dans le cadre des créations artistiques à travers le livre d'Elvan Zabunian, Réunir les bouts du monde. Réunir les bouts du monde, des œuvres littéraires, visuelles et musicales américaines et caribéennes qui ont gardé en elles la mémoire de l'esclavage transatlantique. Bonsoir, Elvan Zabunian.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM. Donc, merci. Votre livre a pour titre Réunir les bouts du monde et est publié donc aux éditions B42. Elvan Zabunian, vous êtes historienne de l'art contemporain, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne et critique d'art. Vous avez également publié Black is a Color, une histoire de l'art africain-américain. Vos travaux portent depuis les années 1990 sur les enjeux historiques, politiques, post-coloniaux et féministes dans l'art des 20e et 21e siècles au sein du contexte états-unien et caribéen. Donc dans ce nouveau livre, Réunir les bouts du monde, vous évoquez des artistes, écrivains et intellectuels qui ont construit leur pratique sur la rupture provoquée par 4 siècles d'esclavage transatlantique. Vous vous interrogez donc sur ce que cette histoire continue de produire aujourd'hui. Elvan Zabunian, comment doit-on comprendre le titre de votre ouvrage, Réunir les bouts du monde? En quoi consistent les bouts du monde?
Merci beaucoup déjà de cette invitation. Je suis ravie d'être là ce soir. À vrai dire, le titre est une traduction de l'anglais que j'ai reprise à Frédéric Douglass, le grand abolitionniste qui était aussi une personne mise en esclavage fugitive, qui a été l'un des premiers à écrire une autobiographie en 1845 dans le contexte états-unien, alors qu'il était encore considéré comme une personne mise en esclavage. Et dans le cadre d'un de ses discours qui porte sur la photographie, il évoque la similitude entre le daguerréotype qui permet au monde d'avoir une galerie de portraits avec Samuel Morse qui, lui, donne la possibilité à ce que toutes les extrémités de la Terre puissent se réunir grâce au murmure des ondes. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase en anglais, donc réunir ou rassembler les extrémités du monde. Et dès que j'ai lu cette phrase, j'ai su que ça serait le titre du livre, puisque en français, le bout du monde, c'est toujours un lieu inatteignable. Et dans ce cas-là, la mise en esclavage de millions de personnes depuis le continent africain vers les Amériques et ce commerce triangulaire a fait que c'était possible de réunir les bouts du monde grâce aux pratiques artistiques que je convoque dans le livre.
Pratiques artistiques que vous convoquez dans ce livre. Dans le premier chapitre, donc là vous avez évoqué donc Frédéric Douglass, vous rendez hommage donc aux célèbres textes écrits ou dictés par celles et ceux qui ont fait l'expérience de la mise en esclavage, dont Frédéric Douglass, également Harriet Jacobs et Sojourner Truth. Des personnes qui, en effet, qui ont fui leurs conditions d'esclaves et publié des autobiographies. Rappelez-nous dans quel moment, dans quel contexte apparaissent ces récits et quelle force présentent ces récits à tel point que les artistes contemporains tissent encore des liens avec ces récits-là.
Alors c'était une très bonne question, puisque c'est le premier chapitre que j'ai intitulé « Récits enlacés » permet précisément de poser cette question de la lecture par les artistes contemporains et contemporaines de ces autobiographies qui ont été publiées donc principalement au 19e et qui servaient d'outils abolitionnistes. C'est-à-dire que écrire sa propre histoire ou la dicter, comme vous l'avez précisé, et c'était dicter quand en général les personnes n'avaient pas la possibilité de l'écrire elles-mêmes, ne connaissant pas l'écrire, enfin, étant illettrée ou n'ayant pas la possibilité d'écrire ou de lire. Donc dicter son histoire ou l'écrire soi-même, comme c'était le cas pour Frederick Douglass et Harriet Jacobs, permettait de dire cette vérité vécue dans un contexte esclavagiste, dans le cadre d'un labeur forcé ou dans le cadre d'une plantation que l'on décide de fuir. Et raconter ces récits permettait en fait aux abolitionnistes, qui étaient en général les blancs dans le contexte états-unien caribéen ou européen, pour avoir entre les mains ces histoires qui leur permettaient de dénoncer la violence de l'esclavage, de dénoncer cette déshumanisation qui était évidemment en place depuis plusieurs siècles. Donc ces écrits ont eu une force politique, critique et philosophique, je dirais, dans un contexte où, a priori, ces personnes mises en esclavage n'avaient strictement aucun droit, étaient considérées comme des objets ou comme des meubles.
Elvan Zabignan, les autres chapitres du livre sont construits sur l'interprétation de la philosophie d'Empédocle, comme vous le soulignez, dans laquelle les quatre éléments immuables et indestructibles ont une fonction matricielle. Donc, expliquez-nous donc le choix de ces quatre autres parties qui sont donc eau, terre, feu, air. Pourquoi cette construction ?
Oui, alors très tôt, je pense, c'était à peu près autour de 2017-2018, puisque j'ai travaillé pendant une dizaine d'années j'ai mené pendant une dizaine d'années les recherches pour ce livre, même si j'ai dû faire des choix, bien évidemment, dans le moment de l'écriture. Très très tôt, s'est imposé à moi ce choix des quatre éléments. Puisque ayant beaucoup travaillé dans un premier temps sur les artistes qui convoquaient l'imaginaire de la mer, à partir notamment d'un poète comme Derek Walcott ou à partir d'un philosophe poète comme Édouard Glissant, qui permettait aussi, ou Cameo Brathwaite, qui était aussi donc un poète qui convoquait tout cet imaginaire. L'eau a été aussi dans sa représentation à la fois réelle mais aussi conceptuelle au cœur des recherches que j'ai menées, remontant d'ailleurs à ce tableau de Turner, qui est un tableau que l'on retrouve de façon récurrente d'ailleurs sur toutes les études portant sur l'histoire de l'esclavage, même sur les couvertures de livres. Donc ce tableau de Turner qui s'appelle The Slave Ship, qui présente...
Un bateau d'esclaves.
Exactement, un bateau et négrier qui est une histoire vraie. Et donc le chapitre haut était pour moi celui du passage du milieu, celui qui raconte cette traversée, qui raconte aussi tout ce que cette traversée a produit comme drame, avec les millions de morts sans doute pendant cette traversée. Et puis cela me permettait aussi de convoquer des pratiques artistiques picturale en particulier, où la représentation de cette traversée pouvait atteindre des formes très abstraites, très profondes aussi, jouant sur les abysses. C'est là aussi où j'ai pu convoquer un certain nombre d'œuvres musicales, par exemple, qui travaillent sur cette vie qui serait sous-marine, comment notamment un groupe de techno de Detroit qui s'appelle Dextria, qui a été un duo très important pour penser cette histoire de l'esclavage dès les années 80 et 90 dans le contexte états-unien, musical états-unien, qui lui-même a influencé donc une peintre comme Helen Gallagher, qui a produit un travail autour de ces fonds marins truffés de végétaux et de monstres et de figures étranges. Et donc, toute cette approche autour de l'eau a été l'une des premières, en fait, que j'ai interrogées. Et puis, très vite, je me suis dit, je vais commencer par l'eau, puis la terre, puisque la terre, c'est à la fois le continent africain que l'on quitte, et puis cette terre totalement inconnue sur laquelle on arrive, on débarque.
Les Amériques,
voilà. Et donc tout ce rapport à la terre, avec tout ce que cette terre comprend comme aussi, disons, le lien à la céramique, la façon dont la terre, c'est le lieu de la plantation, c'est aussi la terre, c'est là où sous la terre on est enterré. Enfin, tout ce que je pouvais tisser à partir des œuvres que j'avais sélectionnées, trouvées dans le cadre des recherches que j'ai menées, m'ont permis de produire cet imaginaire que je m'octroyais moi-même à partir des œuvres. Et c'est aussi dans ce chapitre que je me suis laissé aller à produire aussi des résonances très fortes avec parfois des questions qui pouvaient ne pas avoir l'air d'avoir, disons, des liens, mais qui me permettaient d'interroger, par exemple, tout ce qui était le Underground Railroad aussi, donc ce chemin de fer souterrain.
Qui permettait aux esclaves du Sud de passer donc du Sud au Nord, aux États-Unis.
Exactement, hein. D'aller vers les États libres. Et j'étais très, très heureuse, par exemple, de découvrir avec la figure de Harriet Tubman, qui était elle aussi une figure absolument exceptionnelle, qui a aidé des centaines de personnes mises en esclavage à fuir les plantations. Et donc j'étais très heureuse de trouver que le chemin de fer, la construction même du chemin de fer sur le territoire états-unien était absolument contemporaine du chemin de fer clandestin.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon-Émile.
Elvan Zabunian, je rappelle donc le titre de votre livre, Réunir les bouts du monde. Alors, dans votre livre, vous nous présentez beaucoup d'œuvres, des œuvres artistiques diverses, musicales, que vous l'avez évoquées, et également littéraires, et un certain nombre d'œuvres que moi je découvre. Il y a une grande richesse qui fait qu'on a envie de voir tout ce qui s'est produit, pour faire simple, dans ce monde de personnes qui ont un lien avec l'esclavage au fil des années et des siècles, si je puis dire. Et par exemple, vous passez un certain temps sur le travail d'Isaac Julien, qui s'intitule Lesson for the Hour, donc des leçons pour cette heure, pour l'heure, on va dire. C'est un film installation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette installation, en quelques mots?
Alors, c'est un travail que donc Isaac Julien a réalisé, qui a été terminé en 2019, donc c'est relativement récent. Isaac Julien est un artiste né à Londres en 1960 et dont la famille est originaire de Sainte-Lucie. C'est une famille, il appartient, ses parents sont la génération qu'on appelle le Windrush Generation, donc c'est ceux qui ont quitté le contexte caribéen anglophone par le bateau qui les amenait vers l'Europe et la Grande-Bretagne. Et donc Isaac Julien a été assez tôt un artiste qui a interrogé la place de l'histoire dans sa pratique d'abord cinématographique. Et cette installation s'appuie, donc c'est aussi Lesson of the Hour, c'est aussi le titre d'un discours de Frédéric Douglass. Et il recrée le personnage avec un acteur anglais qui a été l'un des premiers acteurs à jouer Othello
Shakespeare.
De Shakespeare, donc de la période contemporaine. Et cet acteur, en fait, incarne littéralement la figure de Frédéric Douglas.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Isaac Julian accorde aussi une place importante à la femme de Frédéric Douglas. Donc c'est pour lui un élément, puissant de pouvoir montrer comment sa femme a été, qui a été souvent évincée des narrations, disons, habituelles, comment est-ce qu'elle-même était une abolitionniste, comment elle-même avait été très active dans le Underground Railroad. Et puis, il recrée, donc, dans le cadre d'un studio de tournage, un film où Frédéric Douglas est montré en train de faire des discours. Il l'a pu filmer aussi dans sa maison à Anacostia, donc qui est à Washington, à côté de Washington. Il a pu filmer dans cette maison, qui est un lieu que l'on peut visiter et que j'ai la chance de moi-même visiter. Et donc j'ai compris comment Isaac Julian, en tant qu'artiste, avait aussi regardé cet espace qui a été habité par Frédéric Douglas, par sa femme, puis par sa seconde femme, et comment les objets, la bibliothèque, le bureau, prennent aussi une place très importante. On voit que c'était un homme qui était aussi très, très, très cultivé.
Très épris de Shakespeare, justement.
Exactement,
entre
Shakespeare,
autres,
voilà.
Comme vous dites dans le livre,
voilà,
ouais.
Exactement, ouais. Victor Hugo. Mm-hmm. Et donc, Isaac Julian décide d'en faire une installation avec plusieurs écrans lui permet, en fait, de créer cette fragmentation d'un récit, s'appuyant sur les écrits de Frédéric Douglas, mais jouant aussi avec une réception très contemporaine de ce que ces discours produisent encore aujourd'hui. Et notamment l'autobiographie de Frédéric Douglas, et ça rejoint la première question que vous posiez tout à l'heure, l'autobiographie de Frédéric Douglas a été rééditée il y a quelques années avec les cours que Angela Davis avait donnés à l'université de UCLA à Los Angeles en 1969 quand elle a commencé à enseigner. Et donc elle avait fait des cours sur la philosophie et la liberté, et elle avait pris le texte de Frédéric Douglas comme exemple, étude de cas pour ses propres cours de philosophie. Et donc cet ouvrage qui est republié avec une préface de Angela Davis, les cours qu'elle a donnés et le texte Frédéric Douglas, a été un ouvrage très important pour Isaac Julian. Et cela montre aussi que c'est un artiste, comme beaucoup des artistes dont je parle, qui ont aussi une pratique de la recherche et qui produisent des œuvres d'art qui sont, l'analyse ainsi, comme par strates. Et donc ces strates, en fait, qui sont les strates propres à l'histoire, les strates propres aussi à une esthétique qui est créée avec un médium cinématographique, mm-hmm. avec un médium qui est celui aussi de l'installation dans un cadre d'exposition. Et en fait, il y a une manière aussi d'inviter le public à regarder ces différents moments choisis, filmés par l'artiste, présentant Frédéric Douglas dans un cadre soit plus intime, soit rappelant la violence à laquelle il a échappé, rappelant aussi comment, en fait, cette histoire de l'esclavage qu'il a lui-même vécue, sur laquelle il a écrit, continue de produire des éléments de violence extrême, puisque on sait très bien que les abolitions n'ont pas permis, en fait, la sérénité, et que Frédéric Douglas, quand il écrit Les Sons of the Hour, c'est le moment où il y a les lynchages qui sont très très importants, cette violence des États-Unis, il la pointe du doigt. Donc il y a le film permet de revisiter, enfin le travail de Isaac Julian permet de revisiter toute cette histoire, et moi-même en tant qu'historienne de l'art, en étudiant le travail de Isaac Julian par exemple et les autres, j'ai pu aussi reconsidérer cette histoire à travers leur regard.
Elle Vincent Bignan, je vous fais parler un peu de ses œuvres, c'est parce que comme vous êtes historienne de l'art et critique d'art, donc, et comme dans ce livre justement vous présentez beaucoup de ses œuvres pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, c'est, il y a de l'art de longues pages consacrées à certaines œuvres, à certaines figures, notamment celle de Sojourner Truth, qui est donc née en 1797 et mort en 1883. Comment expliquez-vous que l'aura de Sojourner Truth éclaire encore les pensées féministes contemporaines ?
Ah, c'est une excellente question, en effet, puisque c'est moi-même, je connaissais Sojourner Truth d'abord, avant d'étudier de façon plus approfondie ce que cette figure abolitionniste elle-même, féministe déjà, donc au début du 19e siècle, produisait. Par la réception qu'elle avait eue avec cette fameuse phrase Ain't I a woman? Ne suis-je pas une femme? Qui a été phrase qui a été reprise notamment par une autrice importante comme Bell Hooks, qui a été traduite en français par Ne suis-je pas une femme, justement, il y a quelques années. Et en fait, les féministes ont beaucoup écouté ou lu ce texte, ce discours de Sojourner Truth. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était de retourner aussi à l'origine de ce que cette figure a pu produire au-delà du symbole qu'elle représentait, en allant directement piocher dans ses textes, mais aussi sur la façon dont elle a forgé son image avec la photographie.
Oui.
Et notamment ses cartes de visite.
Ça, oui, ça vous en parlez. Pour l'époque, c'était quand même très, très, très précurseur, très avant-gardiste pour l'époque.
Absolument. Ouais. C'était de faire de la photographie un outil politique. Et aussi un outil économique, puisque ça lui permettait de subvenir à ses maigres besoins. Ouais. Mais pour elle, en fait, diffuser ce portrait d'elle-même qui était complètement construit, qui, comme Frédéric Douglas, cherchait aussi à ne pas du tout reproduire un portrait qui serait misérable de la figure d'une personne mise en esclavage, même si elle vivait de façon extrêmement modeste. Elle voulait que ses habits soient...
C'est ça, parce que quand on voit les photos, il y a beaucoup de photos dans votre livre également, ouais. Quand on voit les photos, on voit vraiment c'est une femme noire au 19e siècle qui maîtrise parfaitement sa posture, son image, qui veut, comme vous dites, donner une image très, très attirante de la femme noire à l'époque, ce qui est quand même, quand on se replonge dans le contexte, quelque chose d'assez exceptionnel.
Ah oui, c'est tout à fait exceptionnel. C'est vrai que elle avait donc aussi ce rapport à la foi qui était très, très grand, et ça lui permettait de se positionner comme ça, avec cette aura le prêche. J'aurais beaucoup aimé, et ça c'est quelque chose qui m'a manqué, je le dis à un moment dans le livre, j'aurais adoré qu'il puisse y avoir, on est à la radio, donc qu'il puisse y avoir des enregistrements de leur voix de l'époque, parce que ces voix sont décrites comme étant des voix profondes, avec une force, une puissance, et j'aurais beaucoup aimé pouvoir écouter ces voix, donc j'ai essayé de les dessiner ou de les écrire ou de les décrire en lisant en fait ce que j'ai pu autour de cela. Mais vous avez raison en effet de dire que c'est aussi parce que ces figures là étaient ce féminisme était prôné déjà à l'époque. Alors évidemment, il y a aussi on n'est pas très très loin de tout ce qui concerne la volonté des femmes d'accéder au droit de vote, etc. Mais il y a néanmoins une place importante qui est posée sur comment ces personnes qui étaient mises en esclavage, qui ont été exploitées, qui ont eu Sojourner Truth a eu 13 enfants, tous ses enfants ont été vendus, sauf une des petites filles avec qui elle a pu s'enfuir. Donc il y a aussi une vie de violence, tragique, mais qui... se transforme en une puissance grâce à cette assise sur la photographie, mais grâce aussi à cette façon de dire les choses de façon extrêmement directe. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée aussi, parce qu'au fur et à mesure, évidemment, la recherche, elle est menée comme ça, c'est-à-dire que je ne partais pas de ce que je connaissais,
mais j'ai
découvert au fur et à mesure des recherches que je menais, la profondeur aussi de tout ce qui était véhiculé à cette époque. Et les contradictions aussi, puisque il y a eu... d'une certaine façon, des fictions qui ont été liées à cette figure de ce John Truth. Elle était tellement importante que d'autres autrices ont essayé de s'approprier aussi son aura.
On va poursuivre notre entretien avec vous, Elvan Zabignan, à propos de votre livre « Réunir les bouts du monde, art, histoire, esclavage en mémoire ». C'est aux éditions B42, juste après la musique de Jill Scott.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Get in the way, la musique de Jill Scott sur Allegre FM 93.1. Vous êtes bien dans version originale. Je reçois Elvan Zabignan pour qui publie donc Réunir les bouts du monde, aux éditions B42. Alors, votre livre, Evan de Bunion, est à la jonction de l'histoire et de l'art, si je devais résumer. L'histoire, donc, n'est pas une réalité brute, c'est surtout le récit que l'on en fait. Aussi, c'est à l'échelle individuelle ou à l'échelle des groupes et des sociétés. Et la question qu'on peut se poser donc, par rapport à cette histoire qui comporte un tragique énorme, qui est celle de l'esclavage, c'est comment vit-on le temps marqué par l'esclavage et son histoire? Comment s'en accommode-t-on? Et quand on lit votre livre, quand on lit le projet de votre livre concernant la vérité sur l'histoire de l'esclavage, on peut se demander qu'a-t-elle produit cette histoire d'esclavage? À quoi donne-t-elle naissance? Et là, vous y répondez. Et les œuvres que vous présentez, que vous commentez, que vous venez de commenter ce soir aussi, ce travail de tous ces artistes n'est-elle pas la meilleure réponse à la question comment replacer tout ça dans une dynamique de vie?
Oui, tout à fait. J'ai été très, très marquée dans le cours de mes recherches à un moment donné par la publication d'un ouvrage de Patrick Chamoiseau qui s'appelle « La matière de l'absence ». Et la lecture de cet ouvrage, c'était en 2016, je crois, était très rassurante aussi, parce que j'étais en train de faire ces recherches. Je savais que j'allais écrire sur ces œuvres et les décrire à partir d'une histoire dans laquelle elles s'inséraient, une histoire qu'elles-mêmes racontaient, ces œuvres. Et dans le livre de Patrick Chamoiseau, « La matière de l'absence », il y avait à un moment, bien sûr, en hommage aussi ou en citation à Édouard Glissant, et avec cette pensée de la relation qui les unit et qui les définit, la possibilité de proposer que la littérature, la poésie, que les arts, incluant donc les arts visuels, mais aussi la musique, pouvaient se saisir de cette histoire, et que dans ce moment catastrophe, puisqu'en fait Édouard Glissant, au début de Poétique de la relation, évoque la traversée et la cale du bateau négrier comme un gouffre, pouvait de ce gouffre en fait naître une esthétique de la catastrophe. Et cette question m'a bouleversée d'une certaine façon. Je me suis dit que j'avais envie de moi-même réfléchir à la façon dont ces œuvres allaient reconstituer petit à petit un certain nombre d'événements vécus, un certain nombre de mémoires enfouies. Elles allaient peut-être pouvoir aussi produire, par la fiction, des récits qui viendraient aussi contrer les silences. Mmh. Et donc il y avait toujours cet aller-retour entre ce qui a disparu et ce que l'on peut reconstruire, et les œuvres d'art étaient celles qui, pour moi, incluant bien sûr donc la littérature et la musique, étaient celles qui, pour moi, me donnaient le droit, par rapport à la fonction que j'occupais en tant qu'historienne de l'art, de raconter cette histoire. Et c'est vrai que comment est-ce que cette histoire peut être racontée? J'ai commencé dans le processus de recherche à regarder les œuvres, non pas comme si elles illustraient cette histoire, mais à essayer d'aller encore plus loin. C'est-à-dire, parce qu'une œuvre d'art ne se donne pas de façon immédiate. Quand on écoute un morceau, par exemple, il y a tout le chapitre, dans le chapitre Feu, où je parle beaucoup de la violence, des bombes, ça c'est un peu le post-esclavage, je dirais, où il y a tout un récit de la violence faite au corps, de manière générale, et à un moment donné, j'ai une partie sur le reggae, par exemple. Et voilà, Bob Marley ou Burning Spear sont des formidables compositeurs aussi, des poètes et des musiciens, mais souvent on ne recontextualise pas les paroles qu'ils chantent en lien avec cette histoire. Parfois on les écoute, mais on ne sait pas de quoi ça parle. Mais quand à un moment donné on comprend que Slave Driver, par exemple, ce morceau de de Bob Marley va parler du bateau négrier, va parler du coup de fouet, et bien là, je l'intégrais dans mon, ce qu'on appelle le corpus, en fait, des œuvres dont j'avais envie de faire l'analyse. Mm-hmm. Et ça a été donc à chaque fois un processus où j'essayais de connecter aussi ce qui m'intéressait. Ça, c'est ce que je dis très vite, que cette notion, donc réunir les bouts du monde, c'est aussi réunir les bouts de toute cette histoire fragmentée, puisque quand on quitte un endroit, dans le cadre d'une déportation, de façon forcée, on laisse tout derrière. Et en même temps, pendant 4 générations, il y avait des personnes qui se retrouvaient dans des contextes où d'autres avaient reconstruit leur propre existence, dans le contexte esclavagiste, dans les Amériques. Donc il y avait à chaque fois des rencontres entre celles et ceux qui quittaient le continent africain de façon forcée et qui se retrouvaient à vivre avec celles et ceux qui déjà depuis plusieurs générations avaient appris à se reconstruire dans ce contexte-là. Et là, ça devient aussi presque une méthodologie, en fait, de la réflexion. Mmh. C'est-à-dire que j'ai pris ces fragmentations multiples comme des éléments que je me suis imposé aussi pour l'écriture. Je me suis dit, tant pis si j'ai construit tout le livre de façon extrêmement précise, mais en m'autorisant justement des allers-retours entre des moments qui paraissaient plus éclatés pour essayer de souligner comment en fait les artistes elles-mêmes et eux-mêmes ont produit leurs œuvres avec cette volonté de réfléchir à comment cette histoire pouvait être reconstituée.
Parce que le fond de votre travail, Elven Zabounian, c'est bien ça, de montrer comment l'art est peut-être plus fort que la réalité d'une certaine façon. Comment les œuvres d'art, les créations artistiques peuvent même, si je prends l'exemple de ce qui s'est passé dans les cales du navire négrier, nous n'avons aucun témoignage de ça. Et pourtant, c'est grâce aux arts qu'on peut se reconstituer ce qui s'est passé et le comprendre. C'est l'imagination des artistes qui nous font comprendre, finalement, d'une certaine façon.
Tout à fait. Il y a eu quelques témoignages, quelques-uns, en fait, quelques témoignages dont je parle, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un imaginaire de la violence. Je faisais référence à Glissant, mais d'autres artistes, notamment, par exemple, Amiri Baraka, qui était donc le Roy Jones, ce poète aussi très écrivain, militant.
Qui a écrit notamment le Peuple du Blues.
Exactement, qui est donc un auteur très, très important à la fin des années 60, début des années 60, dans les années 60 et les années 70, comme étant aussi l'une des figures majeures du Black Arts Movement, qui donc réalise, écrit cette pièce de théâtre qui s'appelle The Slave Ship, et qui reconstitue donc l'expérience de la traversée de la cale pour les personnes mises en esclavage, mais en créant justement aussi une mise en scène d'avant-garde à l'époque, avec cette scène éclatée où le public se retrouve confronté à des odeurs, à des cris, à des bruits de coups de fouet. Et donc, en fait, il y a une reconstitution de cette violence qui est théâtralisée, mais qui permet néanmoins de rendre presque réel. Enfin, ce que vous disiez que ça dépassait la réalité, en effet, ça dépasse la réalité, parce que de toute façon, l'atrocité de ce qu'est l'esclavage est déjà au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et donc, c'est aussi pour cela que les œuvres, elles ont cette puissance que je décris. Les œuvres, elles permettent aussi presque d'exorciser, je dirais, cette violence. Elles ramènent à la vie, parce qu'une œuvre d'art, ou une œuvre de littérature, ou une œuvre poétique, ben, c'est quelque chose qui reste aussi. Et ça m'intéressait beaucoup, qui continue d'agir à différents moments. C'est pour ça que le travail dans les années 60 et 70, de mémoire, est aussi important. C'est-à-dire que les historiens en lien avec un moment politique important pour la cause noire ou afrodescendante, dans le contexte aussi des décolonisations, dans le contexte des indépendances, etc. C'est aussi à ce moment-là qu'on prend conscience que l'histoire peut être racontée autrement. Seulement, raconter une histoire dans sa réalité, elle permettrait d'être encore plus effrayante, parce que ça sous-entend qu'il y a une construction économique et capitaliste de l'esclavage qui fait que personne ne peut s'en sortir indemne, d'une certaine façon. Donc les arts, sans être des illustrations, racontent tout ce qui se joue en créant une possibilité de s'émanciper par l'imagination.
On peut se rapprocher de cette tragédie passée, mais on en revient indemne, si je puis dire. On n'a pas on met en même temps le traumatisme à distance, d'une certaine manière. C'est comme ça que je le comprends. J'aimerais donc évoquer avec vous un aspect de votre travail. Je fais référence, bien sûr, à ce qu'on appelle L'Atlantique noir, donc c'est ce célèbre livre de Paul Gilroy, donc professeur à King's College à London, qui part en 1993, donc L'Atlantique noir. Donc pour expliquer en gros ce que c'est contre les visions nationalistes et absolutisme ethnique, Gilroy montre qu'il existe une culture hybride qui n'est ni africaine ni américaine, ni caribéenne ni britannique, mais qui est tout cela à la fois. Elle est issue de l'esclavage des Noirs et forme la diaspora, donc une diaspora vivante, depuis des décennies autour des rives de l'Atlantique. C'est un peu ça l'idée de l'Atlantique noire. J'aimerais que vous nous disiez, Elvan Zabunyan, comment votre livre s'articule-t-il dans cette modernité qu'est l'Atlantique noire ? Comment vous articulez votre travail avec cette notion d'Atlantique noire, justement ?
Alors, quand le livre est sorti en 1993, j'étais étudiante. J'étais en train de faire un diplôme d'études approfondies à la Sorbonne. J'avais eu accès au livre en direct quand il est sorti. Je travaillais déjà sur ces problématiques-là. Et donc, j'ai lu le livre quand il est sorti. Et ça m'avait beaucoup marqué. Mais ce qui m'avait marqué, c'est que le livre, dans la version que j'avais entre les mains, il y avait une reproduction d'un tableau de Aaron Douglas, qui est un peintre de la Harlem Renaissance, dont je parle précisément dans le livre aussi, dans Réunir les bouts du monde. Et j'avais été très marquée que l'Atlantique noir puisse aussi être présenté par un tableau d'un peintre africain-américain très engagé, mais qui a aussi une spécificité esthétique, c'est que ce sont des silhouettes qu'il représente. Et la notion de la silhouette, c'est aussi l'ombre portée, c'est aussi toute une question liée à la lumière. J'ai lu le livre de Paul Gilroy, qui est plutôt un livre axé sur une question politique et littéraire. Enfin, c'est quelqu'un qui ne parle pas des arts visuels, même si dans l'introduction, il y a toute une réflexion entre le tableau de Turner qui part de l'Angleterre, puisqu'il appartenait à un collectionneur, Ruskin, qui était critique d'art, et qui, à un moment donné, trouve, justement, dans la période abolitionniste, qui trouve gênant de posséder ce tableau de Turner, où on voit des personnes mises en esclavage être jetées par-dessus bord en pleine mer déchaînée. Et ce tableau donc part vers Boston, est envoyé à Boston et encore aujourd'hui au musée de Boston. Gilroy évoque ce voyage du tableau de Turner comme étant aussi un élément de trait d'union dans le contexte de l'Atlantique noir. Et ça m'avait beaucoup intéressé. Et surtout, ce que propose Gilroy, c'est aussi une méthodologie, en fait. C'est-à-dire que les outils que, justement, vous avez évoqués, la question de l'hybridité, la possibilité de penser ensemble différents fragments, comment est-ce qu'on reconstitue cette mémoire, comment est-ce qu'on peut penser l'expérience de façon aussi commune et collective. Ce sont des questions qui m'ont beaucoup intéressée. Mais ce que j'ai voulu aussi dire, d'ailleurs je l'écris dès l'introduction, l'Atlantique noir, arrive après Poétique de la relation d'Edouard Glissant. Et il me semble important, ça c'est aussi un élément, disons, de contextualisation quand on fait de l'histoire ou de l'histoire de l'art, Poétique de la relation, c'est 1990. Et donc ce qui m'intéresse, c'est que deux auteurs majeurs, comme Edouard Glissant et Paul Gilroy différemment, et Paul Gilroy a... Alors, Poétique de la relation a été traduit en 1997 en anglais, donc je ne sais pas si Paul Gilroy a pris connaissance du livre en français, je ne pense pas. Mais en tout cas, ce n'est pas juste une coïncidence, en fait, qu'à un moment donné, un tournant des années 90, à un moment où, justement, toutes ces approches postcoloniales sont aussi énoncées dans le contexte de la littérature comparée, dans le contexte de l'art contemporain, dans l'histoire des expositions, il y a un moment où toutes ces questions émergent comme étant très importantes. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on va commencer à réfléchir, justement, à quels sont les effets de cette migration forcée, de ce commerce esclavagiste, comment est-ce que finalement les mémoires se retrouvent.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors moi, je n'ai pas travaillé sur le contexte sud-américain, parce que je ne parle pas l'espagnol ni le portugais, même si je m'intéresse à Porto Rico du point de vue états-unien, et aussi une artiste comme Anna Mendieta, qui était d'origine cubaine et qui a beaucoup convoqué notamment la Santeria, donc autour, enfin le vaudou cubain. Et donc ça, c'était dans le chapitre feu. Mais volontairement, enfin je le dis à un moment donné, je sais que mon travail n'est pas exhaustif et je me suis concentrée sur une période, enfin sur une partie des artistes de façon plus spécifique. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement, c'est qu'il y a bien sûr une expérience commune, ou en tout cas une histoire commune que les artistes contemporains et contemporaines essayent juste de convoquer. Et donc, alors que jusque-là, dans le contexte états-unien, l'histoire de l'art transatlantique ou de l'Atlantique noir était quand même pensée de façon très liée, propre à ce qui se passe aux États-Unis ou dans le contexte anglo-américain, j'ai essayé quand même de montrer des circulations qui étaient beaucoup plus grande. C'est-à-dire que si on a les Jacobins noirs de C.L.R. James qui parlent de la révolution haïtienne, cette révolution haïtienne, C.L.R. James avec une position marxiste à un moment en 1938 quand il écrit ce livre, eh bien ça, c'est en écho avec aussi d'autres contextes intellectuels marqués par une prise de conscience de cette nécessité de s'émanciper aussi d'un joug disons totalitaire dans différentes questions du racisme, de voir de quelle façon est-ce qu'on peut penser ces différents moments, ces différentes étapes. Les années 30, c'est un moment très important aussi pour les arts, à la fois la littérature et c'est le moment des avant-gardes historiques aussi. Et c'est là où on voit la force aussi de la littérature et de la création visuelle et de la façon dont l'histoire agit dans tout ce moment-là. Donc je pense que cet Atlantique noir, ce que produit Gilroy à ce moment, lui-même, en fait, écrit sur un phénomène qui s'est mis en place de façon beaucoup plus large tout au long du XXe siècle. Et comme je le rappelle d'ailleurs dans l'introduction, c'est toujours important pour moi que les artistes et les écrivains-écrivaines sont justement comme des éclaireurs et éclaireuses en fait d'une situation politique. À chaque fois qu'il y a eu des revendications fortes en question dans un moment politique, les années 30 ou les années 60-70, eh bien il y a eu aussi l'émergence de pratiques artistiques qui étaient visuellement parlant, disons littérairement parlant ou musicalement parlant, des vecteurs de ces idées politiques.
Et notamment, vous évoquez la mort de George Floyd aux États-Unis il y a quelques années. Ça, là aussi, ça a provoqué des choses du point de vue artistique. Là encore, c'est un événement qui a un retentissement mondial. Et là aussi, il s'est passé des choses. en relation avec ce lourd passé esclavagiste que les États-Unis connaissent.
Tout à fait. C'était un moment particulier. Donc ça, j'avais déjà écrit dans un autre contexte sur la mort de George Floyd et la façon dont les artistes avaient regardé ce moment. Et c'est vrai que j'avais suivi, c'était en pleine période de pandémie, donc tout le monde avait accès, en fait, par le biais d'Internet ou autre. Enfin, on était un petit peu obligé de passer par ces biais d'information. Et j'avais été surprise. Alors évidemment, j'étais déjà en train de travailler au livre depuis quelque temps. Et donc, cet assassinat, je dirais, qui a été aussi décrit comme étant une reconduction des violences depuis la période esclavagiste. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'artistes, notamment du monde du hip-hop, ou d'autres artistes qui soulignaient en fait que ce genou sur le cou de cet homme pendant plus de 9 minutes était une reconduction de tout ce qui a pu être... Le corps a été marqué par cette violence. Et c'est une évidence, enfin... Quand on regarde l'histoire de la violence dans le contexte états-unien, il est évident, et quand on voit le racisme qui est encore si prégnant, il est évident en fait qu'il y a une approche, une question propre à cette violence qui n'a jamais été résolue et qui ne le sera peut-être jamais, ou alors ça prendra beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'est vrai que cet épisode ou cet événement contemporain d'une violence, en fait, malheureusement banale, puisque si cet homme n'avait pas été filmé à ce moment-là, peut-être que ces images, donc on passe encore par les images qui font preuve, ces images, elles ont été aussi diffusées. Ça m'a fait penser, bien sûr, très vite à la mort, au tabassage de Rodney King en 1992 ou 91, à Los Angeles, où là aussi, je me souviens de ces images qui étaient passées à la télé, mais qui avaient été prises par un vidéaste amateur. Et d'ailleurs, une artiste dont je ne parle pas dans le livre, mais sur laquelle j'ai beaucoup écrit par ailleurs, s'appelle Adrienne Piper, et elle avait fait une installation en montrant le tabassage de Rodney King et montrant le visage tuméfié dans un contexte d'une exposition qui racontait l'histoire des États-Unis. Et en fait, les artistes sont les premiers et premières à regarder précisément ce qui se joue dans cette actualité-là aussi. Et les traces que laissent leurs œuvres sont aussi des traces qui permettent de penser cette violence. Après, ce qui s'est joué, et j'ai pu en parler avec différentes personnes, des amis aux États-Unis, ce qui était nouveau avec les manifestations à l'échelle globale qui ont suivi l'assassinat de George Floyd, c'était précisément le fait que toutes les communautés, les personnes blanches comme les personnes noires, comme tout le monde entier, que ça soit... partout, dans tous les contextes où il y a eu des oppressions et autres, il y a eu une identification avec cet homme aussi, et les manifestations antiracistes qui ont suivi dans un contexte, il fallait aussi... tout le monde était masqué, il fallait aller au-delà des interdits de se réunir dans un contexte urbain. Il fallait avoir cette distanciation, je ne sais plus comment on le disait, sociale. Et en fait, là, ça a été aussi un phénomène global qui a... Et dans le milieu de l'art, ça a aussi révélé en fait tous les dysfonctionnements institutionnels, où on a compris que le racisme était aussi dans les institutions muséales, qu'il y avait aussi une représentation minorée des artistes qui faisaient un travail plus politisé sur les questions, disons, raciales, ou en tout cas représentant le racisme. Donc toutes ces choses-là ont pu être de nouveau au cœur d'une certaine actualité à partir donc de mai 2020, en effet.
Elvan Zabignan, en plus de ce livre, donc je rappelle le titre, Réunir les bouts du monde, vous avez une actualité que vous montez, il y a une exposition que vous avez conçue qui est actuellement visible à Ivry.
Exactement. Donc c'est une exposition dont je suis co-commissaire avec Claire Lorestif, la directrice du Centre d'art contemporain d'Ivry-sur-Seine, le CREDAC. Et c'est une exposition que j'ai conçue à partir de recherches que j'ai menées en janvier de cette année aux États-Unis sur les correspondances de trois autrices qui sont très importantes pour le livre Réunir du monde aussi, Réunir les bouts du monde, pardon, Angela Davis, Audre Lorde et Toni Morrison. Et d'ailleurs, le livre se termine avec quatre vers de Audre Lorde, extraits de son poème Charbon. J'ai repris ces mêmes vers dans l'exposition. L'exposition est visible jusqu'à mi-décembre. Et il y aura aussi un certain nombre d'événements liés à cette exposition. Et c'est une exposition qui présente aussi des travaux des élèves de collège d'Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine avec lesquels j'ai fait, en compagnie de la médiatrice du CREDAC, Julia Leclerc, des ateliers de création et d'écriture. Ça me paraissait très important de travailler avec les adolescents et adolescentes autour de ces figures pour que, là, justement, le relais puisse être passé avec les nouvelles générations, puisque l'adolescence est un moment pas évident dans un contexte où on ne leur donne pas beaucoup de moyens d'exprimer leur imaginaire. Et des œuvres d'art contemporains, contemporaines, et les archives sont aussi présentées dans cette exposition.
Voilà. Donc il y a cette exposition, et bien sûr votre livre « Réunir les bouts du monde » avec donc un quatrième de couverture, un détail de l'œuvre de l'artiste Lorna Simpson intitulé « Phénoména ». C'est ça, d'accord. Exactement. Merci beaucoup Elsa Zabignan. Je rappelle donc le titre du livre, encore une fois, qui est aux éditions B42, « Réunir les bouts du monde, art, histoire, esclavage en mémoire ». Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie donc Armand Gury et Yasmine Bedali qui étaient à la technique. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h, toujours sur Aligre FM 93.1. Dans un instant, c'est Dancehall Reggae Vibes et à 22h30, Audiométrique sur Aligre FM. Bonne soirée, à la semaine prochaine.
Version originale, Patrick, Léon Émile. Yeah.
Drugs got me waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitches, student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. Bet they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The invasive black American gangster send us the corner hugger. Seeing this nigga shining and annoying me like a motherfucker. This buster on me, now he act like he don't know me. 44, my closest homie, kill cockroaches like Tony, got Montana motors. You bought 100 dipping fluid, yo, I had to smoke it. Pupils dilated like silver dollars, now we loking. Call it devilish how I do biz. Fuck these niggas talking, I leave their thoughts on my shoestrings. What? Straight to that FNH is what I'm holding. A buster that we know got 50 bowls, bust it open. We came banana up, divided up, know what's the quotient. I split with four niggas since I'm a go-getter. I think these suckers pussy, I'ma murk the whole litter. Told my girl to leave as soon as I hung up the phone with her. Man, I heard he robbed the robbers, look Freddy a cold nigga. Got an ice maker for a heart, made nigga from the start. Life is like a movie, all I did was play my fucking part. Jeffing up the crack, the heroin, the weed out the car. I called it Fast Freddy's, I should own a fucking restaurant. Cause back when I was 12, threw some bells on the scale and I got a pager. We broke them down and started selling nickels to the neighbors. Eventually the penitentiary gon' see me later. Kiss my mama, told her if I died and it was part of nature. What? The flesh, the Lambo powder outside, it's a stretch. My bitch half Mexican, Afghan, I'm blessed. From living tough times with rough levers, a gorgeous watch. A team on a dreadful level, yo. Yeah, we still
still getting money right. Long as the sun come out, I hold these money tight, getting fresh, just cooling my bitch on my dick. But boo, yo, you live with your moms, just get a grip. Clip in my pocket, a rocket, I think of the dips. I need jewels and gems with rough flicks. Trips to Africa, shorty tear sex up. I'm out in Bombay, rebels here acting up. We real OG, 7,500 of us, up in the Sprinter bus, fussing, we need more heat.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.